Il est 23h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir. Le bras de fer entre la direction de Sciences Po Paris et les étudiants pro-palestiniens se poursuit. Après une réunion ce jeudi, l'école a annoncé qu'elle va maintenir ses partenariats avec des universités israéliennes, alors que les manifestants ont demandé de couper les ponts pour dénoncer les frappes d'Israël sur Gaza, tuant des milliers de civils palestiniens. Des étudiants ont décidé d'entamer une grève de la faim. Coup dur pour le camp présidentiel. Le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, prononcé il y a une semaine à la Sorbonne, a été décompté en intégralité, comme du temps de parole de la liste de la majorité aux élections européennes selon l'ARCOM. Un discours qui a quand même duré plus de 2 heures. L'Élysée se défend et estime qu'il s'agissait d'une prise de parole du président de la République. Et on vous rappelle que ce vendredi, ce sera le dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales pour les européennes. Vous devez vous rendre en mairie pour remplir un formulaire. Les inscriptions en ligne se sont clôturées ce mercredi. On rappelle que les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain. Au moins 200 personnes réunies ce jeudi soir à Vimereux, dans le Pas-de-Calais. Hommage aux 5 migrants morts, dont une petite fille la semaine dernière dans la Manche. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une embarcation de fortune. Un cas de fièvre de Lassa confirmé en France par le ministère de la Santé. Une maladie plutôt rare dans l'Hexagone, mais qui tue chaque année entre 5000 et 6000 personnes en Afrique de l'Ouest. Le patient contaminé serait un militaire rentré de l'étranger. Il est hospitalisé à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne et son état de santé ne présente aucune inquiétude. Et puis c'est un comportement qui paraît presque humain. Un orang-outan de l'île indonésienne de Sumatra s'est fabriqué un pansement à partir d'une plante médicinale pour guérir d'une blessure en dessous de l'œil. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi la revue Scientific Reports. Selon les scientifiques, c'est la première fois qu'un tel comportement est observé chez un grand singe à l'état sauvage. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée. À notre écoute.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Annecy. Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et le thème de l'émission cette semaine, c'est l'information en temps de guerre. C'est le sujet de la prochaine édition de la revue politique et parlementaire. Et pour évoquer ce sujet avec moi, j'ai le plaisir de recevoir David Collomb. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un des auteurs de l'article sur la guerre de l'information, mais qui est aussi le titre d'un ouvrage aux éditions Talendier, La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits. Vous êtes historien et au fond, bien vous nous racontez le nouveau paradigme dans lequel nous sommes entrés, où finalement l'information est un nouveau champ de bataille, en plus des conflits traditionnels, hein, le retour de la guerre à haute intensité sur le sol européen, la réouverture d'un conflit dur au Proche-Orient. Il y a aussi maintenant un nouveau champ de bataille, et c'est un petit peu ce que vous développez dans votre article finalement.
Oui, on voit bien aujourd'hui avec les conflits en cours que l'espace informationnel est un espace d'affrontement à part entière, qui pour les belligérants est un enjeu absolument fondamental à l'ère de la communication globalisée. Le Kremlin, par exemple, s'efforce de remporter dans l'espace informationnel des victoires décisives qui lui est beaucoup plus difficile d'obtenir sur le champ de bataille en Ukraine.
Ces conflits informationnels, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils prennent une résonance particulière, une ampleur nouvelle? Ils ont toujours existé, mais avec les médias sociaux, avec le développement du téléphone portable et des boucles de communication, en fait aujourd'hui il y a une démultiplication des vecteurs pour faire passer soit un discours officiel, soit de l'intoxication, je dirais, des adversaires identifiés.
À mes yeux, la guerre de l'information a succédé à la guerre froide. dans la mesure où les révolutions technologiques apportées par le numérique, par l'Internet, par les chaînes de télévision, par satellite, ont bouleversé les rapports de puissance en rendant les esprits d'un grand nombre de personnes accessibles aux propagandistes plus facilement que par le passé. Et vous avez raison, en effet, de souligner le fait que l'avènement du smartphone et plus encore des médias sociaux a accentué ce phénomène dès lors que nous sommes de plus en plus tributaires de ces outils pour accéder à l'information et de plus en plus exposés à travers ces outils à des campagnes de déstabilisation qui s'appuient sur l'architecture publicitaire des médias sociaux.
Est-ce que aujourd'hui vous considérez que le temps de retard pris par les régimes autoritaires, puisque vous dites finalement que dans un premier temps ce sont les Américains, ce sont les États-Unis qui ont dominé cette guerre informationnelle. Vous citez notamment la guerre en Irak 1990 après l'invasion du Koweït, où là on a eu effectivement une maîtrise vraiment très forte de la communication autour de ce conflit par l'Occident et en particulier par les États-Unis. Est-ce que vous diriez que maintenant, comme pendant la guerre froide, on a assisté à une espèce de course à l'armement et qu'aujourd'hui la Russie est devenue aussi en ce domaine une puissance qui compte?
Les régimes autoritaires ont vu dans l'hégémonie américaine et plus largement occidentale dans l'espace informationnel à la fin de la guerre froide une menace existentielle pour le Kremlin, comme pour le régime chinois, comme pour les mollahs en Iran, comme pour les dirigeants nord-coréens. L'idée que les médias internationaux puissent diffuser à grande échelle les idées de démocratie et de liberté était représentée comme une menace pour leur emprise sur leur propre société. Cela les a conduits, d'une part, à protéger leur espace informationnel des ingérences étrangères, en contrôlant l'accès à cet espace et en adoptant une série de lois toujours plus liberticides. Et cela les a conduits, d'autre part, à s'engager activement dans une guerre mondiale de l'information à travers, par exemple, leurs médias internationaux d'État, à travers leur soft power, à travers leur diplomatie publique et de plus en plus à travers le recours aux outils des Occidentaux qu'ils s'emploient à retourner contre eux. Vous citiez la Russie, je suis pour ma part convaincu que l'influence russe n'aurait pas été la même sans les outils de Facebook et de Twitter qui ont été utilisés par le Kremlin pour mener, par exemple, des opérations d'interférence dans les processus électoraux ces dernières années.
Alors, il y a la Russie, il y a aussi une autre puissance qui est très attentive à ce qui se passe et qui d'ailleurs est un protagoniste de cette guerre mondiale, en tout cas de ce nouveau champ de bataille, c'est la Chine, qui depuis longtemps a verrouillé son espace intérieur. Et on a vu il y a quelques semaines encore les États-Unis, même quelques jours, les États-Unis voter dans un projet de loi la possibilité d'interdire TikTok, qui est cette application très populaire, notamment chez les jeunes, mais qui est vue aujourd'hui par les services secrets et par les autorités américaines comme le cheval de Troie, potentiellement, de la Chine.
Oui, je disais à l'instant que le Kremlin avait retourné les réseaux sociaux occidentaux contre l'Occident lui-même. La Chine communiste, quant à elle, s'est dotée de ses propres géants technologiques mondiaux, à commencer par TikTok, qui en effet est considéré par beaucoup d'experts comme un instrument de puissance au service du Parti communiste chinois pour peser sur les conduites de ces utilisateurs qui se comptent désormais en milliards sur l'ensemble de la planète. Et en l'occurrence, ce qui est frappant, c'est que depuis que Xi Jinping est au pouvoir, le Parti communiste chinois n'a fait que renforcer son contrôle sur les entreprises en général et les entreprises de technologie en particulier. Il n'a fait qu'intensifier ses efforts de propagande. Il n'a fait que renforcer les moyens dont disposent ses services de renseignement. Et on sait aujourd'hui, c'est bien étayé, que les services de renseignement chinois s'emploient aux États-Unis à reproduire un certain nombre de techniques d'ingérence qui avaient produit des effets, qui avaient produit des effets pendant la campagne présidentielle de 2016. Concrètement, cela signifie que Donald Trump aujourd'hui se trouve être soutenu de fait non seulement par le Kremlin comme il a déjà été par le passé, mais également par le Parti communiste chinois.
Alors, on va revenir peut-être sur aussi le sujet du numéro de la revue, de l'information en temps de guerre. On sait que, ma foi, quand un conflit devient chaud et quand on entre dans un conflit armé comme la Russie et l'Ukraine, mais on pourrait parler aussi de ce qui se passe au Proche-Orient entre le Hamas et l'État d'Israël, au fond, il y a deux versions de la même histoire qui se construisent. Et on voit sous nos yeux chaque camp se rendre coup pour coup et essayer systématiquement de générer une version alternative, quitte à sacrifier finalement la réalité des faits. Et au milieu de ça, on nous demande à nous, citoyens, de alors qu'on n'est pas sur les théâtres d'opération, de choisir ou de décrypter un petit peu ces deux versions d'une même histoire.
En effet, la guerre de l'information est fondamentalement une guerre des perceptions. Il s'agit de gagner une bataille qui est celle de l'opinion publique mondiale, indépendamment de ses propres forces sur le terrain militaire. Et en l'occurrence, ce qu'ont appris nombre d'organisations terroristes depuis Al-Qaïda, c'est que l'information peut se révéler une arme tout aussi décisive que des missiles, voire la bombe nucléaire. Il y a là une capacité asymétrique pour ces organisations non étatiques de bouleverser les rapports de puissance. Par exemple, dans les conflits qui ont opposé depuis 20 ans l'État d'Israël au Hamas, on constate que presque à chaque fois, le Hamas a perdu sur le terrain, mais a remporté la bataille de l'opinion publique mondiale. On voit aujourd'hui, à propos de l'Ukraine, que le Kremlin n'a pas opéré de percée décisive, il n'en a pas, semble-t-il, les moyens militaires. En revanche, dans l'espace informationnel, il a d'ores et déjà réussi à fragiliser la cohésion du Parti républicain aux États-Unis, à fragiliser en partie la cohésion des États européens vis-à-vis de l'Ukraine, et c'est son but stratégique le plus immédiat que d'affaiblir le soutien des Européens et plus largement des Occidentaux à l'Ukraine et aux Ukrainiens en s'appuyant sur l'arme de l'information.
Alors si on reste un instant sur le conflit ukrainien, les États européens ont pris, et c'est la preuve qu'ils sentaient une menace, des décisions assez inédites en matière de restriction de liberté d'information, en tout cas de contrôle des médias, puisque par exemple la chaîne russe a été interdite d'émettre depuis nos pays. Elle existe toujours, évidemment, elle peut émettre depuis la Russie ou d'autres pays, mais c'était une décision relativement rare parce qu'on est plutôt dans nos démocraties libérales, on a plutôt depuis des années libéré les ondes. Et là, dès le début du conflit, il y a des décisions qui montrent finalement bien que ce terrain-là est sensible et que on a l'intention, en tout cas dans certaines démocraties, de pas se laisser dominer sur ce terrain-là.
Oui, en même temps, il faut bien constater que l'interdiction de RT s'est avérée inefficace. Pour ma part, j'avais à l'époque soutenu publiquement cette interdiction au nom de l'état d'urgence informationnelle, mais avec le recul, je constate que non seulement cela n'a pas dissuadé concrètement les auditeurs, les téléspectateurs de RT de visionner cette chaîne, mais plus encore, cela a conforté la défiance d'une partie de l'opinion publique en France à l'égard des autorités. Je crois que les mesures liberticides sont en définitive la pire réponse que l'on peut apporter à la guerre de l'information. Outre qu'elles renforcent la défiance, elles légitiment en quelque sorte les mesures liberticides que les régimes autoritaires prennent eux-mêmes. Les démocraties, face à la guerre de l'information, ont d'autres armes qui, de fait, se révèlent beaucoup plus efficaces sur le long terme. La première arme, c'est d'abord la reconnaissance de l'état de guerre informationnelle. Et cela fait peu de temps en France que cet état de guerre informationnelle a été reconnu, c'est il y a quelques mois seulement à propos des ingérences russes, parce que être conscient de ce phénomène est le meilleur moyen de prendre les mesures nécessaires pour y faire face. Ensuite, la meilleure arme à notre disposition reste la transparence, consistant à rendre visibles ces opérations qui, pour une bonne part, échappent à notre perception immédiate puisqu'elles se déroulent en partie sur les plateformes numériques et les systèmes de recommandation algorithmique et les systèmes publicitaires. Les démocraties doivent savoir combattre la guerre de l'information, savoir combattre les opérations informationnelles des régimes autoritaires sans pour autant se renier.
Dernière question, est-ce que quand même le combat n'est pas inégal parce que finalement nous ne pouvons pas pénétrer l'espace informationnel de la Russie, de la Chine, d'autres régimes politiques qui, eux, vous l'avez bien décrit, ne se privent pas pour intervenir dans notre espace de démocratie libérale comme la Russie l'a fait en créant Russia Today et comme la Russie l'a fait en utilisant les réseaux sociaux, Twitter par exemple, pour intervenir dans des processus démocratiques. Est-ce qu'il n'y a pas là une fragilité intrinsèque des démocraties vis-à-vis de certains régimes autoritaires ?
Cette fragilité intrinsèque des démocraties est réelle, mais en même temps, il s'agit de notre force. La force des démocraties, c'est les valeurs que celles-ci portent. C'est la liberté de voter pour qui l'on veut. C'est la liberté de s'exprimer sans craindre de recevoir 15 années de prison. Et nous devons, je crois, réagir à la guerre de l'information menée par les régimes autoritaires en coordonnant l'action des différents régimes démocratiques pour collectivement défendre le modèle qui est le nôtre. Parce que il ne faut pas oublier que fondamentalement, la crainte des régimes autoritaires émane moins des démocraties elles-mêmes que de l'impact du modèle démocratique au sein de leur population. Cette guerre de l'information pour les autocraties comme l'Iran, la Corée du Nord, la Chine ou la Russie, est une guerre pour la survie politique d'un régime qui se sait fondamentalement peu soutenu par sa population. Et c'est la raison pour laquelle plus les démocraties se montreront fortes et sûres d'elles-mêmes, sûres de leurs valeurs, et plus grandes seront les chances de voir ces régimes autocratiques échouer dans leur tentative de nous fragiliser.
Merci beaucoup David Collomb. Je rappelle que vous êtes historien, auteur de La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits aux éditions Talendier, également auteur d'un article dans le prochain numéro de la revue politique et parlementaire sur l'information en temps de guerre. Et on aura pu éclairer nos auditeurs sur cette guerre de l'information finalement depuis quelques années une ampleur inédite. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à Pau. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et dans cette deuxième partie de l'émission, nous continuons sur le sujet de l'information en temps de guerre. Et dans cette deuxième partie, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Dominique Mercher. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste à l'Opinion et vous êtes aussi auteur d'un ouvrage aux éditions Robert Laffont « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est sommes-nous prêts aussi pour la guerre de l'information, parce que en temps de guerre, et dans votre entretien avec la revue politique et parlementaire, vous évoquez beaucoup le conflit entre l'Ukraine et la Russie, dans toutes ses implications stratégiques, mais aussi dans le volet informationnel. Et on dit souvent, ça a été un sénateur américain en 1917 qui dit que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Est-ce que vous iriez, vous reprendriez cette affirmation à votre compte ?
Oui, c'est assez vrai, cette formule. La première victime de toutes les guerres, c'est la vérité. C'est vrai que toutes les guerres dans l'histoire, depuis que il y a des moyens d'information, mais ça a toujours été à la fois de diffuser des fausses informations, de la propagande à destination des ennemis, et puis ce que l'on appelait pendant la guerre de 14 le bourrage de crâne, c'est-à-dire la volonté de convaincre sa population de la justesse de sa cause. Donc je crois que c'est pas un phénomène nouveau qui serait apparu ces dernières années avec les conflits actuels. Sauf que ça a pris une dimension très importante avec évidemment les réseaux sociaux qui sont des caisses de résonance absolument énormes de diffusion d'informations. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, il y a beaucoup d'excellentes choses sur les réseaux sociaux, mais aussi de désinformation, qu'elle soit volontaire de la part d'État ou de groupes politiques, ou parfois simplement que des gens racontent absolument n'importe quoi, et comme ils le font sans filtre, eh bien, tout ça est mis sur un pied d'égalité. Et donc, est-ce que nous sommes prêts à ça ? En tout cas, je crois que depuis quelques années, les pouvoirs publics s'y préparent, se sont dotés de moyens de surveillance, de moyens, voire de contre-attaque sur le plan des médias. En même temps, c'est compliqué parce que nous sommes dans une démocratie libérale. Et dans une démocratie libérale, la liberté d'expression, la liberté d'information, la liberté d'écriture doit être préservée absolument. Et ce qui il est délicat la frontière doit être délicate entre ce qui relève effectivement de la lutte contre des intentions malignes et de la liberté d'expression, la liberté de la presse.
Alors, dans la première partie d'émission, nous avons reçu David Colomb, qui lui nous a expliqué que selon lui, la guerre mondiale de l'information était déjà déclarée. Et que, bien effectivement, il fallait que les démocraties libérales prennent conscience de l'enjeu et des risques, et que finalement, on sorte un petit peu d'une forme de candeur, et qu'on prenne des mesures ou des contre-mesures pour se protéger, que ce soit sur l'organisation des élections. Hein, on a beaucoup parlé... et on en parle encore de l'intrusion ou des interférences de la Russie dans le scrutin de 2016 qui a produit l'élection de Donald Trump, mais également on a évoqué effectivement le fait que la Russie par exemple avait développé un réseau Russia Today, des chaînes d'infos dans les grands pays occidentaux, et que finalement on s'est rendu compte au moment du déclenchement de ce conflit que la Russie avait peut-être mis en place une espèce de cheval de Troie au cœur de nos démocraties.
Oui, tout ça est exact. Je connais le livre de David Colomb et ses avertissements, mais et dans tout ce qu'il dit, il y a évidemment une grande part de vérité. Je mets néanmoins en garde dans le fait que, sous prétexte de combattre des dictatures, nous ne versions pas nous-mêmes dans des formes de censure et de contrôle de l'information qui iraient contre les principes mêmes que nous sommes censés défendre. Il y a, je crois, une phrase du philosophe Friedrich Nietzsche qui disait « À force de combattre le dragon, on devient soi-même un dragon ». Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention, nous ne devons pas répliquer les méthodes de la Russie, de la Chine ou d'autres sous prétexte de s'en défendre. Je crois que nos systèmes de démocratie libérale sont capables de de générer, de produire des anticorps, notamment, eh bien, dans la presse. La presse est capable de faire le tri entre ce qui relève des choses vraies et ce qui relève des choses fausses, ou de contrôler l'information. Tout ne peut pas venir des pouvoirs publics, parce qu'il y aura toujours la tentation des pouvoirs publics de détourner cette action de défense au profit des intérêts du pouvoir en place. Donc soyons prudents. Évidemment, il y a des menaces. Évidemment, il y a des tentatives de désinformation. Je dirais qu'elles sont plus, si on prend le cas français, elles ont été plus performantes contre la France en Afrique, notamment au Sahel, qu'elles ne le sont en France en réalité. Je pense que les anticorps démocratiques, les anticorps culturels, d'une certaine manière, le niveau de savoir de la population est quand même une garantie contre le n'importe quoi.
Alors, il n'en reste pas moins que avec le retour d'un conflit à haute intensité en Europe, cette question vient de la formation et surtout de la description du réel de ce qui se passe bien par exemple en Ukraine ou en Russie ou dans d'autres parties du monde, mais restons sur l'Europe, devient un sujet un petit peu permanent. On le voit, on l'a vu au moment de la première phase de l'invasion, où il y a eu évidemment un brouillard de guerre, et beaucoup d'observateurs bien considéraient par exemple que l'Ukraine n'avait aucune chance de résister à l'envahisseur russe. La réalité l'a démenti. Et puis ensuite, on a vu que tout au long de la guerre, les Russes ont essayé de faire un contre-récit de ce qui se passait, de ce que faisait leur armée, des bombardements sur les populations civiles, et que à chaque fois qu'on avait des événements dramatiques, hein, on se rappelle de Boutcha, on peut aussi parler de Mariupol qui a été ravagé, eh bien il y avait systématiquement une contre-propagande, parfois il faut dire efficace, pour eh bien contrer les récits et les observations qui avaient été faites du côté ukrainien.
Oui, c'est exact. Mais que faire face à ça? Que faire de mieux que d'avoir une presse, des médias, des journalistes et un public bien formé, éduqué dans les écoles, par exemple? Le système scolaire a un rôle à jouer sur l'apprentissage du discernement de ce qui relève de l'information, de ce qui relève de la propagande ou de la désinformation, parce que la désinformation existe. Donc, je pense que je crois quand même à la vitalité des systèmes démocratiques pour se protéger la contre, mais c'est vrai que nous sommes face à ça. Nous sommes face à des gens qui manipulent le récit, les événements en fonction de leur projet politique. Qu'est-ce qu'on peut faire là contre? Est-ce qu'on doit tout interdire? Est-ce qu'on doit verrouiller les réseaux sociaux? Est-ce qu'on doit interdire aux gens d'exprimer des opinions qui sont minoritaires, qui sont voire critiques, dissidentes dans nos pays? Non, je crois qu'il y aurait plus de dégâts à s'engager dans un contrôle de l'information qu'à tolérer des excès. Voilà. Mais ça, j'assume une position extrêmement libérale sur ce sujet. Il n'en reste pas moins que effectivement il y a des campagnes de désinformation, et il est nécessaire. D'ailleurs, les outils existent aujourd'hui. La France s'est dotée d'outils. Je pense, je change une agence comme Viginum, qui est capable de détecter qui propage, qui relaie massivement des discours de désinformation, des discours de propagande sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il est bon de savoir, d'ailleurs on l'a vu encore récemment, il y a eu la publication de rapports de cette agence Viginum disant, bien voilà, on sait que les Russes ont fait ceci, cela. Ça fait partie de la transparence absolument nécessaire, qui est le propre de nos régimes, contrairement justement aux régimes qui vous combattent.
Alors, sur ce point, vous êtes plutôt d'accord, hein, avec David Collomb, qui a avoué avoir été plutôt sur une position, on va dire, de censure ou d'interdiction de certains médias, par exemple, mais qui reconnaît, avec le recul, que la position libérale est peut-être plus souhaitable parce que, finalement, la censure amène parfois à donner une visibilité à des médias ou à des discours qui, finalement, étaient assez marginaux avant qu'on les empêche d'émettre ou d'apparaître.
Exactement. Moi, je me réjouis que David Collomb ait évolué dans ce sens. C'est un démocrate et j'ai absolument aucun doute là-dessus. Oui, c'est vrai. Fallait-il interdire la chaîne Russia Today? Fallait-il interdire Sputnik? Franchement, j'ai un doute là-dessus. Vous savez, de toute façon, ça se glisse aujourd'hui par d'autres canaux, si on les a interdits, les gens se disent « Ah ben si, ils ont interdit, c'est parce que ça les dérangeait. » Et si ça les dérangeait, c'est parce que ces gens-là disent la vérité. Donc, effectivement, ça leur fait de la pub, d'une certaine manière, et ça n'empêche absolument pas du tout la propagande ou la désinformation ou la contre-information de se diffuser, y compris dans des journaux français, y compris dans des publications françaises. Je ne vous inciterai pas pour ne me fâcher avec personne, mais ça existe. Vous allez dans un kiosque et vous voyez que la propagande russe...
Je l'ai vu. J'ai vu un magazine avec... Vladimir Poutine sous...
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Et parce que je crois qu'au final, la liberté est plus efficace. Et puis de toute façon, ça correspond à nos principes. Donc, mais c'est pas parce que je dis ça que je suis naïf. C'est pas parce que je dis ça que je ne crois pas qu'on nous attaque. Il faut simplement savoir se protéger, mais se protéger efficacement sans renoncer à ce que nous sommes.
Alors peut-être une dernière question juste pour élargir un peu le sujet, parce qu'on n'est plus tout à fait sur l'information en temps de guerre, mais on est quand même sur cette question des réseaux sociaux, de leur utilisation. Est-ce que vous n'êtes pas un peu troublé ou inquiet de ce qui se passe aux États-Unis, où on est dans une grande démocratie libérale, et un des deux candidats... a réussi à propager par les médias sociaux l'idée que les élections avaient été truquées et il fabrique son retour, il tente une revanche, un retour en utilisant ce carburant de la vérité alternative, parce que finalement toutes les procédures engagées après le scrutin ont montré que les conditions de déroulement étaient normales. Et malgré ça, eh bien, on a presque deux républicains sur trois qui adhèrent à ces vérités alternatives.
Oui, vous avez raison. C'est extrêmement inquiétant. Ce fait que vous décrivez est vraiment l'expression d'une crise profonde, je pense, du système politique américain, d'une extrême polarisation entre les camps, entre des gens qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus, qui ne vivent plus en réalité dans le même espace politique. Chacun s'enferme dans sa bulle, et c'est vrai que les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes, ont tendance à enfermer chacun dans sa propre vérité, ou dans sa propre croyance. Et que ce qui fait la démocratie, c'est l'agora, c'est-à-dire la capacité de débattre ensemble sur des bases communes, où on pense qu'il y a quand même des choses en commun, on pense qu'une vérité existe, par exemple, que les faits existent. Et ça, effectivement, la démocratie américaine montre une crise assez profonde de ça. C'est inquiétant parce que on le dit souvent, et c'est souvent exact, il suffit de voir le décalque de ce qui se passe dans les facs américaines et de ce qui se produit aujourd'hui, par exemple à Sciences Po, ce qui arrive aux États-Unis arrive ensuite en Europe.
Oui.
Et donc effectivement, il y a des inquiétudes à avoir sur l'évolution de notre démocratie, mais c'est un sujet qui dépasse vraiment la question du contrôle de de l'information. Ça en fait partie, évidemment, mais cette extrême polarisation des sociétés, cette extrême polarisation politique entre les Trumpistes et les anti-Trumpistes aux États-Unis, on peut la retrouver ailleurs. On la retrouve par exemple en Israël entre Netanyahou et ses opposants. On la retrouve dans d'autres pays. Et donc c'est effectivement très très préoccupant.
Et c'est pour ça que je souhaitais qu'on élargisse un tout petit peu le sujet, parce qu'il me semble qu'effectivement, ça va au-delà des médias et du rôle de l'information, mais ça, aujourd'hui, ça fait finalement écho à la manière dont on peut vivre en société ou bien ne plus se supporter.
Exactement, c'est exactement cela.
Et je vous remercie, Jean-Dominique Mercier, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que
merci
vous êtes
de votre invitation.
Journaliste à l'opinion, que vous venez d'écrire un ouvrage qui a été publié aux éditions Robert Laffont, « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» Et ça parle évidemment de ce qui se passe en Europe en ce moment, dans l'Est de l'Europe, en Ukraine et en Russie. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
هي مثل حبتني يا هاك اللحظة ويا ريتها لا شفتها ولا شافتني
أول نظرة حبيتها هي مثل حبتني يا هاك اللحظة ويا ريتها لا شفتها ولا شافتني
يا هاك اللحظة ويا ريتها يا هاك اللحظة ويا ريتها يا هاك اللحظة ويا ريتا لا شفتها ولا شافتني
أول نظرة حبيتها هي مثل حبتني يا هاك اللحظة ويا ريتا لا شفتها ولا شافتني
يا هاك اللحظة ويا ريتا يا هاك اللحظة ويا ريتا يا هاك اللحظة ويا ريتا لا شفتها ولا شافتني لو عارف انه الحب بده يحرمني من النوم انا لو عارف انه القلب بده يشتاق لك اليوم انا لو عارف انه الحب بده يحرمني من النوم انا لو عارف انه القلب بده يشتاق لك اليوم يا هاك اللحظه ويا ريتها يا هاك اللحظه ويا ريتها يا هاك اللحظه ويا ريتها لا شفتها ولا لحظة ويا ريتها يا هاك اللحظة ويا ريتها يا هاك اللحظة ويا ريتها لا شفتها ولا شافت يا هاك اللحظة ويا ريتها يا هاك اللحظة ويا ريتها يا هاك اللحظة ويا ريتها لا شفتها ولا شافت
اسمنا حلو بيه الشكل ده هو الله عليه الله زي القمر في السماء كسفت نجوم الليل وادانا منها الجمال ما هي اجمل ما شافت عين ده كمان نصهم نصين نص اقدر اوصفه والتاني فوق الخيال
في بالي دانا 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 ايد الليالي حبيبي واللالي دانا 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 ايد الليالي ما تتشبع في بالي هو هو قلبي وروحي Sihem, Oriental Dream.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Épernay. et écoutez Radio Orient en DAB+ à Limoges.
أنتم بالبقلبي. La radio du vivre ensemble.
نشرة الأخبار من إذاعة الشرق مع رويدة كرم.